Festival d'Avignon en direct avec Osmose Radio.
Osmose Radio ?
Osmose !
Osmose !
La web radio du off.
Waouh ! Comment allez-vous, chers amis ? J'espère que ça va. Alors, j'ai en face de moi, non pas Suzanne, mais sa créatrice, ou presque, Julie De Sèvres. Bonjour, Julie.
Bonjour, Serge.
Alors, vous êtes l'auteur et metteur en scène de Suzanne. Oui. Suzanne, malgré le nom, Suzanne, c'est une étrange vie, la vie étrange de Paul Grappe, inspirée d'une histoire vraie. Alors, c'est pas vraiment un fait divers, ça se passe pendant la guerre 14-18 ?
Ça commence pendant la guerre, enfin, voilà, ça commence pendant la guerre 14-18. En fait, Paul est au front. Il y a un fait divers vraiment parce que voilà, ça a fait parler dans les journaux en fait cette histoire.
Puis ça finit par un truc.
Ça finit par un meurtre. Voilà, je le dis, on le dit dès le début de la pièce.
J'osais pas le dire.
Je peux spoiler. Ça finit par un meurtre. Allez, je dis pas tout de suite qui tue qui. Mais en 1915, donc Paul Grappe, qui est un homme qui a vraiment existé, un soldat de l'époque, qui déserte le front et pour se cacher, parce qu'il y a des descentes de police à Paris, il se déguise en femme.
D'accord. Bon, faut remettre le contexte. Hein. C'est la guerre la plus meurtrière qu'on ait jamais vue. Quand on y partait, on revenait pas. Des millions de morts. Et donc, c'est peut-être ça aussi. Paul n'est peut-être pas vraiment envie de.
Ah, il a sauvé sa peau.
De boucher, enfin, de comment on appelle
de
ça, de chair à canon.
De
voilà.
Chair à canon, exactement.
Et il donc, il sauve sa peau. Mais pour sauver sa peau, il se transforme en femme. Il se travestit. Et il s'appelle Suzanne.
Et il s'appelle Suzanne. Avant ça, il a essayé de se. A priori, il a essayé de se mutiler. Ce qu'on fait pas mal de gens là-bas aussi.
D'accord.
Il s'est coupé l'index de la main droite pour pouvoir ne plus partir au front, mais son caporal voulait le renvoyer au front. Donc dans la pièce, on le voit cauchemarder de cet épisode. Et voilà, ça n'a pas marché de se couper un doigt quand même pour échapper au front. Donc bah, il part, il s'échappe et il se cache en femme.
C'était pas un doigt qu'il fallait couper.
C'est ça.
Voilà. Alors cette Suzanne va vivre à Paris.
Voilà.
Dans cette année 15, 16, je ne sais pas combien
d'années. En fait, Suzanne vit à Paris pendant 10 ans, en femme.
10 ans,
de
ah oui.
15 à 25, et ça marche.
Alors, il a pris goût. Alors, non, il ne peut plus redevenir publiquement l'homme qu'il était, Paul Grappe.
Non.
Parce que sinon, il est condamné à mort.
Il risque sa peau, exactement. Il sait qu'il est recherché. Et en même temps, on peut supposer qu'il y a pris goût. Il y a pris goût. Parce qu'il a travaillé en tant que femme, couturière, faire des petits jobs par-ci, par-là. Mais surtout, il y a pris goût en allant au Bois de Boulogne, en rencontrant... ce que raconte sa femme au bout d'un moment, peut-être 5 à 6 maîtresses par soir, quelques amants aussi, en tant que femme, en tant que Suzanne.
Oui, à ce que j'allais dire, il y va en tant que femme pour rencontrer des maîtresses.
Oui. Et oui, il a passé une petite annonce dans un journal. Alors ça, c'est l'anecdote par rapport aux faits divers, c'est pas dans la pièce. Mais il a passé une petite annonce dans un journal de rencontre entre femmes et voilà.
C'est spécial, hein.
C'est une histoire assez incroyable.
C'est très, très particulier parce qu'en plus, il est marié.
Il est marié.
Avec une femme.
Il est marié avec une femme.
Et là, bon, il y a quand même... Ça déraille au bout d'un moment.
Ça déraille au bout d'un moment.
C'est pas facile à tenir, cette espèce de triple vie, le poids de la justice derrière.
Bah c'est ça. C'est principalement ça dont on parle, finalement, parce que la pièce commence par un mariage et finit au tribunal. Donc on parle aussi vraiment de la société, de la justice, des lois de l'époque aussi, et de comment ces deux femmes, finalement, Suzanne et Louise... sa femme, vont pouvoir vivre et essayer de vivre libre dans ce contexte. Et a priori, vont-elles y arriver? Je ne sais pas.
Elles s'enferment. L'une l'autre. Ou elles s'enferment dans quelque chose qui...
En tout cas, il y a quelque chose
malsain,
où Suzanne trouve une liberté grâce à sa place de femme.
Oui.
Une forme de liberté. Déjà, elle peut bah, échapper au front, vivre, avoir rencontré du monde, s'ouvrir, etc. C'est la période aussi des garçons. C'est la période d'une forme de libération de la femme où les corsets sautent, les femmes sortent plus, elles travaillent à cause de la guerre, elles se mettent à travailler, elles se coupent les cheveux. Donc c'est aussi comme ça que Suzanne passe plus inaperçue dans Paris. Mais en parallèle, à la maison, Suzanne, c'est aussi Paul, et Paul reste un mari violent avec sa femme, qui considère que c'est sa possession, et il reste violent avec elle.
D'accord. Il a beau avoir un côté féminin dans la vie publique, il reste un pauvre con macho, imbivable dans la vie privée.
Un homme à qui on a appris qu'il doit faire la guerre, être violent et être...
Alors c'est carrément ça, c'est-à-dire que quand même, je sais pas s'il vit bien ou pas, mais il picole beaucoup.
Il boit beaucoup, ouais.
Et il frappe sa femme.
Et il frappe sa femme, ouais, tout à fait. Et de plus en plus.
Disons ça va pas s'arranger tout ça.
Non, ça va pas s'arranger. Disons que c'est terrible, mais c'était assez quotidien à l'époque et considéré comme normal. On a des témoignages de l'époque, les voisins sont gênés par le bruit, hein, plus que par les violences que subit cette femme. Et hélas, c'est peut-être encore un peu le cas maintenant quand ça arrive. C'est les ponts qu'on peut faire entre ce qui se passait il y a un siècle et maintenant. Mais voilà, en 1925, bon, bonne nouvelle, il est amnistié, donc il peut reprendre ses habits d'homme, entre guillemets. Mais en fait, après ça, il y a une petite embellie, mais en fait, petit à petit, c'est le cycle infernal. Il est de plus en plus alcoolique, de plus en plus violent. Il s'habille en homme, mais il garde des habits de femme. Enfin bon, voilà. Et en fait.
Est complètement paumé, en fait.
Je pense complètement paumé.
Au bout d'un moment.
Je pense complètement paumé.
D'ailleurs, bah, elle a le démarche d'aller au Bois de Boulogne. Déjà, c'est qu'il se passe un truc. Il y a un petit dérapage quelque part.
Pour moi, il joue avec les limites, vraiment.
Ouais.
Il...
Ou alors, d'ailleurs... ça l'excite. C'est difficile de cerner le personnage, quand même. Hein.
C'est dur, ouais.
Comment vous avez trouvé le texte, l'histoire ? C'est une histoire vraie.
C'est une histoire vraie.
Vous avez trouvé ça où ? Dans des archives ?
Ouais, c'est dans des archives. Ouais. Les archives, en fait, donc il y a eu un procès. Allez, je vous le dis maintenant. au bout d'un certain temps, il battait sa femme vraiment tous les jours et elle a fini par le tuer.
Ah.
Elle finit par le tuer quand ils ont un enfant. Et donc, il y a eu un procès. Le procès de Louise, donc sa femme, qui finalement est un peu aussi le procès de Suzanne, parce que c'est aussi cet homme-femme qui est jugé dans le procès.
Bien sûr.
Voilà. Et c'est Maître Garçon, qui est un avocat super célèbre de l'époque, qui a traité cette affaire, qu'on a traité d'autres.
J'hallucine. L'avocat s'appelle Maître Garçon.
Oui, oui, oui.
Dans
voilà.
Une histoire d'un homme qui...
L'homme alcoolique qui s'appelle Paul Grapp.
D'accord. ça ne s'invente pas finalement.
Voilà. Non, mais c'est incroyable. Ouais. Incroyable. J'aurais voulu le faire, j'aurais pas osé.
Et vous avez trouvé ça dans les archives juridiques alors ?
Donc en fait, ce Maître Garçon a laissé aux archives nationales tous les dossiers de ses affaires, libres de droit, voilà. Et j'ai découvert cette histoire, j'ai découvert ce fait divers par un roman historique des historiens qui avait fait des recherches aussi autour de cette histoire. Pour ça, vous pouvez voir sur le flyer, inspiré de La garçonne et l'assassin de Fabrice Virgili et Daniel Volman. J'ai rencontré aussi une compagnie italienne qui a fait un spectacle sur cette même histoire. Enfin voilà, c'est une histoire qui inspire.
Ah oui, elle en a inspiré d'autres.
Ouais, ouais. Mmh.
D'accord. Elle nous révèle quand même quelque chose, cette histoire, c'est ces tranches de vie de l'époque. La condition de la femme, le rôle de la femme, l'homme, on avait des rôles bien stéréotypés, bien définis. Mm. D'ailleurs, il frappe sa femme quand il est un homme, quoi.
Oui. Oui, à la maison, en tout cas.
Enfin, en tous les cas, parce qu'il est un homme.
Oui,
en tous les cas.
Voilà.
Donc, ça soulève quand même pas mal de...
Ça soulève pas mal de questions sur comment ça fonctionnait à l'époque. On commence par le mariage, donc on apprend des choses, des lois de l'époque qui sont hallucinantes sur le code civil de Napoléon, l'enfant appartient au mari de la femme comme la pomme au propriétaire du pommier, par exemple. Il disait ça.
Frappe ta femme tous les jours si elle sait pas pourquoi, si tu sais pas pourquoi elle le saura.
Voilà, c'est ça, des choses. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? C'est ah zut, ça m'échappe.
Ah.
En gros, ah oui, c'est ça. La femme adultère en gros peut aller 3 ans en prison. L'homme adultère a une petite amende de 300 euros s'il est pris en flagrant délit au domicile conjugal. Enfin, faut vraiment y aller pour que.
Mais qu'on est vraiment sûr que c'était pas un accident, etc.
Oui. Et en fait, c'est ce qui est intéressant pour nous dans cette histoire, c'est les échos d'il y a un siècle et d'aujourd'hui. Évidemment, les droits civiques ont évolué. Les femmes peuvent voter maintenant. Enfin, voilà, on parle beaucoup de Simone Veil en ce moment. Évidemment, il y a vraiment de choses qui ont évolué. Mais à la période où j'écris à cette pièce, il y avait quand même l'histoire de Jacqueline Sauvage qui faisait aussi beaucoup de bruit dans les journaux et qui pose encore des questions sur est-ce que c'est vraiment des histoires isolées ou est-ce que ce serait pas un petit peu trop fréquent et un petit peu partout.
Oui. C'est vrai qu'on peut faire le parallèle. Jacqueline Sauvage, on rappelle, hein, elle a tué son mari aussi parce qu'elle était vraiment maltraitée. Mais même la justice, là, beaucoup de mal à juger. On ne sait plus si on la quitte, si on la condamne avec du sursis, si on... Ça c'est très très compliqué, parce que quelque part, il a fallu que ce soit le président qui intervienne.
Qui gracie, ouais.
Et encore, même dans sa grâce, au début elle n'était pas complète.
Ça a pris du temps.
Vraiment, on a du mal.
Il y a eu la question de la légitime défense, ça soulève beaucoup de questions encore maintenant.
Ça dérange votre pièce, Suzanne, peut-être ? On en sort comment ?
Bah là, en fait, ce qui est assez agréable, c'est que le public en sort toujours avec envie d'en parler.
Oui,
mais
bah
finalement,
c'est clair.
On parle de sujets assez graves, assez lourds, mais souvent avec légèreté, avec humour. Moi, j'ai pris aussi les choses parfois avec de l'humour. Ouais. Et donc, il y a des gens qui vont rigoler de telle situation. La situation où, par exemple, la leçon de femme, où Paul apprend à devenir une femme et on lui apprend à se tenir droite, pas trop parler, faire ci, faire ça, qui est une scène super drôle, en fait.
Ah, c'est bonjour, gentilhomme.
Voilà. Et donc, selon les gens, on a eu des publics de 20 ans ou de 80 ans. Il y a une personne qui était très touchée par les chansons de l'époque parce que ça lui rappelait des souvenirs de son enfance ou de ses parents ou quoi.
14 ?
15 Oui, il y a une dame
1925,
qui chantait
ça fait 92 ans à peu près maintenant. Si on est né en 25.
Oui, c'est ça. Oui, si on est en 25.
Il n'y en a pas beaucoup. Hein, des... non, on ne peut pas en rester beaucoup.
Non, c'est vrai. On a une dame de 80 ans qui chantait les chansons avec nous. Puis après, on les connaît, hein, tel qu'il est, il me plaît. Vous voyez, c'est... il y a des choses qui sont restées dans notre imaginaire.
Ah oui,
et
c'est
après,
vrai. Il me fout d'écoute. Hein, ramp... ouais. Non, la chanson, voilà. Elle dit ça aussi, c'est vrai.
Oui, oui. Oui.
C'est mon homme.
Oui, c'est ça, exactement.
Ouais, on les connaît un petit peu, nous aussi. Bon, je ne vous ferai pas un récital. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est tous les soirs à 19h50 au théâtre Pixel. Très joli nom, Pixel.
J'espère et très jolie
est...
place.
J'espère qu'il n'est pas aussi petit qu'un Pixel.
Non, non, il est bien.
C'est la plus petite unité sur l'écran, le Pixel. C'est rue Guillaume Puy, au 18. Voilà, c'est facile à trouver. La rue Guillaume Puy, au moins... il n'y a aucun problème. Oui, par contre, si je parlais du débat, c'est parce qu'on va pouvoir débattre, on va pouvoir discuter un petit peu autour de la condition, la place des femmes du 20e, du, j'arrive plus à parler, du 20e siècle à aujourd'hui.
Voilà, le,
il y a
donc,
une soirée dimanche. Ouais.
Dimanche après le spectacle, on a donc une personne qui vient nous proposer une conférence, un lien en fait, de la pièce à l'histoire. Sur la place des femmes du siècle dernier jusqu'à aujourd'hui.
Alors là,
et
on,
un petit débat après aussi.
On l'a vu dans la discussion, maintenant même, il y a quand même des tas de choses qui ont beaucoup changé.
Oui.
C'est impressionnant.
Oui.
Puis c'était hier, enfin je veux dire, on n'est pas... il n'y a même pas encore 100 ans, puisque 1925, ça n'avait pas encore 100 ans.
Oui, tout à fait, oui. Donc il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Les questions, les thèmes qui sont en commun sont autour des stéréotypes de genre, des violences, etc. Mais là, ce que la conférencière va amener, c'est aussi vraiment un petit point historique sur, à l'époque, elles luttaient pour leurs droits civiques, quand est-ce que ça s'est arrêté, des petites anecdotes rigolotes sur ce qui s'est passé, des avancées, des reculs. Voilà. Et puis après, comme je disais, c'est vrai que quand les spectateurs sortent du spectacle, ils ont toujours envie d'en parler. Il y a des gens qui vont être touchés par la question du travestissement, d'autres par l'identité, le traumatisme de guerre, la violence. Enfin, ça amène tellement de questions que les échanges sont toujours super intéressants selon les places. Quoi.
Puis ce qu'il questionne, là, c'est que quand même, il le fait par obligation de devenir Suzanne Paul.
Mm-mm.
Parce qu'il ne faut pas qu'on le retrouve, qu'on le reconnaisse. Donc c'est l'idéal d'être une femme, puisque au départ, c'est un homme, donc c'est plus compliqué de devenir.
Et puis à Paris,
puis apparemment, il y prend goût. Enfin, il se passe quelque chose en lui. Bon, il y a tout le contexte, mais ce n'est pas très clair.
Oui.
Il ne sait pas, je m'habille en femme la journée quand je suis dehors et je redeviens un homme le soir. C'est que j'y prends quelque part goût, je vais au Bois de Boulogne, j'ai des amants.
Il
s'est passé quelque chose
au niveau de l'identité. Ouais. Alors qu'avant, a priori, il n'avait jamais trop été sur cette question-là. Et même sa femme, quand elle parle de lui, parce qu'elle a écrit un carnet pour se défendre quand elle était en prison pour le procès, quand elle parle de 15 à 25, quand elle parle de son mari, elle appelle Suzanne, vraiment.
D'accord. Donc il s'est vraiment imprégné.
C'était devenu Suzanne, oui.
Alors c'est bien au théâtre de jouer quelqu'un qui incarne.
C'est ça qui est génial, c'est que du
Suzanne
coup le comédien,
incarné, hein.
Le comédien sur scène, du coup, qui est un homme, se travestit à vue. On voit le comédien devenir un personnage femme et on voit le personnage en même temps. Enfin, c'est...
Parlons-en justement rapidement des comédiens. Quelle est votre équipe, cher auteur et metteur en scène, Julie Desèvres ?
Alors, donc, il y a Édouard Demanche qui interprète Paul et Suzanne, qui avait aussi fait la création musicale du spectacle, parce qu'on a aussi donc, des chansons a cappella, une équipe de musiciens en fait aussi. On a Zachary Army qui interprète les hommes de loi. Donc, il fait le maire, le juge, l'avocat, le policier.
C'est vrai qu'on entend la voix du juge par moment.
Dans le... Oui, oui.
Puis on voit cette espèce de flic, là. C'est lui.
Le grand
oui, voilà,
flic. Le grand flic un peu impressionnant, c'est lui.
Ouais, c'est lui.
Dans
d'accord.
Le teaser. Ouais, on peut trouver le teaser sur YouTube.
Oui, j'allais le dire.
Et après, on a du coup, on a Madame Massin, la concierge de l'immeuble, qui nous raconte l'histoire. Parce que dans le fait divers, dans l'histoire vraie, il y a vraiment une concierge qui a cru pendant 10 ans que Suzanne était une femme. Donc je suis partie de ce personnage et j'en ai fait une narratrice un peu populaire, sympathique, qui a son point de vue sur l'histoire et qui a récupéré des cartes, des photos, tout ça, comme moi finalement, et qui à partir de ça raconte l'histoire. Et Louise Bloch.
Vous êtes un petit peu identifiée, non?
À mes deux narratrices,
oui. Oui, vous lui avez donné. Vous avez transmis des choses.
Oui, exactement. Dans la fougue de raconter, l'envie d'aller chercher et de comprendre ce qui a pu arriver à cette famille, à ce couple, en fait.
On va faire une certaine dose de curiosité, quand même, pour se rentrer dans ce genre de choses. On a dit un petit peu qui était là, donc Héloïse Bloch.
Héloïse Bloch, narratrice aussi, et Léa Rivière, donc, qui interprète Louise. la femme de Paul.
D'accord. Et c'est tous les soirs à 19h50 au Théâtre Pixel, 19 rue Guillaume Puy à Avignon. On peut réserver, hein, je crois, au 07... attendez, je retrouve mes numéros là. 07 82 04 88 01. 07 82 04 88 01. Et puis pour la conférence, c'est un seul jour, c'est le 9 juillet, dimanche 9 juillet, après le spectacle. La place des femmes du XXe siècle à aujourd'hui avec Emmanuel...
Rungouat,
merci. J'ai du mal à le dire. Bah écoutez, merci beaucoup.
Bah merci à vous.
Je vous invite à voir le spectacle. On aura peut-être des invitations un jour. En tous les cas, n'hésitez pas à aller sur YouTube. Vous tapez Suzanne, virgule, la vie étrange de Paul Grapp et vous risquez de tomber sur le teaser, la petite bande-annonce. Comme voilà. Ça, ça vous en dira encore un peu plus.
Super. Ouais.
Merci beaucoup. À bientôt.
Merci à vous.